Chers amis de PFC, bonsoir. Bienvenue dans cette réunion Prepare for Change de Romainville. Nous sommes le dimanche 1er mars 2015. Nous sommes avant l'événement. Je crois utile de le rappeler. Voilà, on fait un petit tour de prénom et puis ensuite on pourra partager, poser des questions, y répondre, dire ce qui change dans notre vie et dans le monde.
Bonsoir, c'est Ludmila.
Bonsoir, c'est Christine. Je suis contente de vous retrouver après une quinzaine de jours d'absence. Et je salue Lina. Les autres groupes qui, en ce moment aussi, font une soirée Prepare for Change.
Bonsoir, c'est Clément. C'est ma première réunion de Prepare for Change et je vous remercie pour votre accueil dans ce groupe.
Bonsoir, c'est Véronique. Bonsoir à toute notre belle famille Prepare for Change. Et merci à ce très beau groupe mondial et tout ce qu'il apporte au changement pour notre planète.
Bonsoir, c'est Avi. Alors, je suis heureux d'accueillir cette réunion dans mon lieu depuis septembre 2013, une réunion historique où on était 22 personnes et qui disait beaucoup de choses. Donc c'est une réunion où on peut se former simplement en écoutant la réunion, la première de toutes, hein, qu'on a expliqué. Voilà, je crois utile quand même de rappeler que Prepare for Change en général et ces réunions en particulier fonctionnent sans chef. C'est-à-dire que c'est des réunions de compétences. Ceux qui sont à l'aise avec certains domaines, l'organisation ou l'économie, l'information, peuvent utiliser leurs compétences pour participer à la réunion. Mais il n'y a pas, une personne qui dirige ni le mouvement Prepare for Change et ni les réunions. On fonctionne avec le système de la démocratie réelle. Ça veut dire que chacun joue un rôle égal. Chacun amène selon ses compétences dans ses réunions et reçoit également du partage des autres. Donc ça, c'est important. De cette manière, il n'y a pas de lutte d'ego, hein, où on les minimise. Il peut y en avoir parce qu'on est humain, mais on minimise les conflits de personnes parce que il n'y a aucun intérêt à être le chef de quoi que ce soit dans ces réunions. Parce que le but de préparez-vous au changement, c'est justement un monde égalitaire, un monde qui fonctionne sur la base de chacun selon ses besoins et chacun selon ses moyens. Et ça, on peut dire que dans ces réunions, on s'entraîne. On s'entraîne à ça. On s'entraîne à fonctionner d'une manière qui prenne tout le monde en compte et qui n'ait pas de laisser pour compte. Et que c'est pour ça que chaque personne présente ici peut participer à sa mesure avec ses compétences, au moment où il y aura besoin de ses compétences. Quelqu'un qui, par exemple, est très calé en économie pourra nous informer sur ce qui se passe à l'échelle des banques maintenant dans le monde. Moi, je suis calé un peu en informatique. Je sais gérer des listes de diffusion par email. Je sais manipuler un ordinateur avec facilité. Je sais communiquer à un réseau. Gérer un réseau, voilà, donc tout ça, je sais aussi organiser des réunions, rassembler les gens, donc tout ça, je le mets volontiers au au service de ce mouvement. Préparez-vous au changement. Et puis, nous constituons un groupe de soutien à l'événement. Donc, c'est quoi un groupe de soutien ? C'est des personnes qui sont au courant de préparez-vous au changement, qui savent que dans un horizon plus ou moins lointain et dans certaines fenêtres d'opportunité dans laquelle nous sommes actuellement jusqu'au 17 mars, si je ne me trompe pas, un événement peut se produire qui changera complètement le mode de vie sur Terre. On peut dire l'équilibrera davantage, parce qu'aujourd'hui, il semble très, très déséquilibré. Le rapport de force sur Terre est extrêmement déséquilibré dans le sens de la manipulation, dans le sens d'une certaine, entre guillemets, élite, qu'on appelle cabale aussi. Ne pas confondre avec cabale, avec 2B, hein, qui est un mouvement ésotérique, c'est pas du tout la même signification. Cette cabale-là, c'est une sorte de complot, de manipulation de masse de l'humanité, dans le but de l'exploiter au maximum, et puis bon, ça ressemble au mouvement des 1%, 99%, le mouvement des indignés. Il y a 1% de la population à peu près qui accumule la plupart des richesses et puis s'en sert pour contrôler le reste. Hein, donc le contrôle par le travail à outrance, le contrôle des économies, les dettes, le contrôle des pays, le contrôle des énergies. Il y a beaucoup de contrôles différents qui tendent à essayer, pour cette élite, de garder un certain pouvoir sur cette planète, de s'enrichir et d'avoir toutes les facilités possibles au détriment du reste de la population qui, souvent, travaille dur, ne mange pas à sa faim, n'est pas dans une joie de vivre ni dans un bonheur d'existence. Et donc, tout ça est appelé à changer, d'abord par nos consciences et ensuite par l'action du mouvement de la résistance, donc Cobra est le porte-parole. Donc le mouvement de la résistance travaille en coulisses, hein, il s'agit de frères de l'espace, il s'agit d'alliés terrestres, des personnes qui travaillent au niveau de la population, qui sont infiltrées un petit peu partout dans les organes de pouvoir. Et il s'agit aussi de frères intraterrestres qui, à leur échelle, font aussi une partie du travail pour prendre en sandwich cette cabale sur Terre, en mettant la lumière par en dessous, la lumière par au-dessus, et la lumière dans la population pour amener plus la lumière au sein même de l'obscurité pour faire disparaître cette obscurité sur Terre. Si on peut résumer cela ainsi. Voilà, et donc, lorsqu'il y aura suffisamment de personnes qui feront la méditation le dimanche, lorsqu'il y aura suffisamment de conscience sur Terre, ce qui est appelé l'événement pourra survenir avec le moins de dommages possibles dans la population, parce que si les choses se passent trop brusquement et que les gens ne sont pas préparés, il peut y avoir beaucoup de violence, il peut y avoir de la peur, il peut y avoir des morts, des blessés, il peut y avoir des chocs aussi de conscience, des traumatismes. Si on dit à une personne non préparée qu'il y a des extraterrestres sur Terre, qui a des technologies qui nous libèrent complètement de la facture d'électricité ou autre. Une personne qui se rend compte qu'elle a été manipulée, que la religion c'est un tissu de mensonges, que l'économie c'est un tissu de mensonges, que l'histoire c'est un tissu de mensonges, que l'éducation c'est un tissu de mensonges, que la science est extrêmement manipulée. Une personne apprenant tout ça d'un coup peut disjoncter parce que tout ce en quoi elle croyait s'effondre tout d'un coup. Hein. Et puis il y a une grosse crise de pouvoir avec la politique, puisque tout d'un coup, nous savons qu'on nous a menti pendant des siècles, des millénaires même. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une préparation, pour que les choses se passent pacifiquement et en douceur, comme il est dit dans la méditation. Donc ce groupe de soutien, il est là pour que nous nous préparions individuellement à cette possibilité de grands changements sur Terre et que nous puissions soutenir les populations au moment où cet événement se produit, les soutenir en apportant des explications et puis en soutenant psychologiquement. Donc, idéalement, c'est plus il y a de groupes de soutien et plus il y a de chances que l'événement se produise. C'est aussi plus il y a de groupes de méditation et plus la conscience sur Terre augmente. Et la conscience augmentant, il n'est plus possible d'avoir des dirigeants qui ne reflètent pas ce niveau de conscience. Hein. Quand s'il y a un grand niveau de conscience, on va pas voter pour des forces de manipulation, on va pas voter pour des politiciens corrompus, on va voter pour des politiciens qui nous représentent davantage. Mais s'il y a vraiment 2-3% de la planète Terre qui sont en conscience, même 5%, ça ne suffit pas à installer une nouvelle ère sur Terre, parce que les votes vont continuer à se faire dans la manipulation, hein, parce qu'il y a des campagnes électorales, parce que ça implique de l'argent pour les campagnes, et que ceux qui ont vraiment envie de changer le monde n'ont pas ces sommes d'argent pour investir. Tout est soigneusement préparé pour que le système reste en place. Hein. Mais avec un changement de conscience, en Grèce, ça s'est fait en partie. On ne peut pas dire que c'est une totale révolution des consciences, mais ils ont dit assez. Hein. Ils ont dit assez à l'austérité, ce qui est déjà beaucoup. Ce qui est déjà un mouvement de conscience. C'est plutôt une réaction à ce qui s'est passé avant. Un mouvement qui dit maintenant on veut être heureux, on veut être libre, on n'accepte plus d'être manipulé. Mais c'est déjà ça, parce que ça peut faire boule de neige. Et puis en Espagne, il y a à peu près le même mouvement qui est en place, qui a une chance de percer aussi pendant les élections prochaines. Et puis en Italie, ça commence un petit peu. En Allemagne, il y a un petit peu de frémissement. Donc, on peut dire que, d'une certaine manière, c'est une frange de la population commence à exprimer son mécontentement par rapport aux manipulations. Elle commence à savoir que, par exemple, l'austérité qui est préconisée en Europe n'a jamais réglé quoi que ce soit. Dans les dernières années, elle n'a fait que empirer les choses. Donc il y a une sorte de mouvement qui dit on veut autre chose. Hein, voilà. Alors, il y a eu les printemps arabes, etc. Et on peut voir que ça bouge un petit peu dans les consciences. Mais je dirais que le vrai changement viendra d'une prise de conscience individuelle profonde des individus sur Terre, hein, pas des mouvements politiques, mais vraiment des individus qui sont au courant de ce qui se passe dans les coulisses et qui veulent changer ça, tout simplement, ou donnent leur contribuent avec leurs compétences à l'apparition d'un monde meilleur. Un peu comme ce qu'on fait ce soir, avec nos compétences, on essaie d'élever notre niveau de conscience et puis notre niveau de vibration. Voilà. S'il y a quelque chose à dire, en particulier, ou une question à poser, voilà, moi je ne veux pas parler, faire un monologue, hein, mais si quelqu'un a, ou si Clément a une question en particulier, à à poser, quelle qu'elle soit, on peut y répondre.
Pas spécialement. Je suis là pour essayer d'obtenir un peu des informations que j'ai pu. J'essaie de me documenter par moi-même, mais de. Et également de participer à des groupes comme ça qui peuvent justement m'éclairer à trouver, je pense, le droit chemin. Donc je pense que voilà, si je suis là ce soir, c'est pas un hasard. Et il y a quelque chose qui m'a amené ici. Et donc j'espère que ce sera une longue. Et que les questions pour moi, c'est encore tout nouveau. Les questions viendront sûrement par la suite, quand on aura l'occasion d'approfondir un petit peu les choses. Pour le moment, c'est beaucoup de choses nouvelles pour moi et beaucoup de choses déjà assimilées dans un premier temps avant d'avoir vraiment des questions plus précises. Est-ce que quelqu'un veut s'exprimer à son tour?
Alors moi, je peux parler personnellement ce soir. J'ai senti une énergie assez forte. Dans les visualisations, j'ai senti, quand on a commencé vers 19h30, que c'était assez fluide, plus fluide encore que d'habitude. Et dans la méditation planétaire, là, de libération planétaire de ce soir à 20h, il y a des choses qui se sont facilitées pour moi, qui se sont passées plus facilement que d'habitude. Il y a beaucoup de visualisations et j'ai visualisé les choses plus facilement. Quand on tournait et puis on pouvait imaginer la présence de nos frères de lumière de l'espace, des Pléiadiens, des maîtres de sagesse. Et bien moi je voyais comme un cercle tout autour de la pièce, avec des êtres différents, des licornes, des dauphins, des maîtres de sagesse. Tout c'était dans une belle lumière blanche, et comme si je voyais chacun, ils étaient tout autour. Comme si je voyais chacun, quand je tournais, je voyais chacun défiler. C'est la première fois que je peux visualiser aussi facilement. Et quand il a été question de visualiser un vortex de lumière en chantant « Ea », et ben c'est étonnant parce que parfois j'arrive un petit peu à visualiser un arc-en-ciel sur la planète Terre, mais cette fois c'est venu tout seul, sans même que je... Mais c'est pas un arc-en-ciel qui est venu, c'était, je voyais une hémisphère centrée sur la France, sur Romainville même, et au centre de cet hémisphère, il y avait un point blanc vraiment lumineux, et ce point blanc rayonnait sur toute l'hémisphère, et c'était poli, c'était brillant, cet hémisphère était lisse, et la lumière se reflétait partout. Alors je sens qu'il y a comme une énergie. En ce mois de mars, en ce 1er mars, il y a comme une énergie nouvelle. Je ne pourrais pas la décrire vraiment précisément, mais je sens qu'il y a un glissement vers autre chose. Je peux dire aussi que je sens quelque chose de joyeux, en filigrane derrière tout ça, quelque chose de joyeux. Peut-être est-ce aussi parce que hier, avant de m'endormir très tard, j'ai visualisé la télévision d'ici et maintenant. La radio ici et maintenant a une télévision expérimentale qui est en fait une simple caméra qui est dans les studios, mais qui permet de voir les invités de visu. Et il y avait une invitée qui s'appelait Armelle, qui est quelqu'un qu'on peut qualifier d'éveillé, qui parle de non-dualité. Pratiquement la seule réponse qu'elle a à toutes les questions qui sont posées, c'est la source de nos problèmes, c'est que nous ne sommes pas éveillés à notre vraie nature. Et tous les problèmes viennent de là, y compris les problèmes des autres et du monde. Ça vient du fait que nous-mêmes, nous ne sommes pas connectés à notre vraie réalité. Et puis on peut comprendre que nous sommes dans une réalité qui est limitée, hein, et que il y a beaucoup d'évolutions possibles. Hein. Donc connectés à la partie divine, on peut dire, de nous. Mais alors, le fait de voir cette femme parler, et à un moment donné, elle est rentrée dans un fou rire joyeux, comme un enfant. Mais ça a duré une minute. Et c'était entre Laurent et Armel, il y avait des rebondissements de fou rire, de fou rire, de fou rire. C'était joyeux, mais alors joyeux. Et c'est une femme très simple, parce que Laurent lui disait, est-ce que ça t'arrive de réagir à des choses? Elle dit oui, tout à fait, je réagis à des choses, mais ça passe vite. Je comme un enfant. Un enfant qui pleure et puis après il va jouer tout de suite après parce qu'il a exprimé. Et puis elle disait aussi parfois il y a des larmes qui coulent et il n'y a pas de volonté spéciale. Les larmes arrivent, ça coule et c'est très agréable de les laisser couler. Et après ça passe. Et donc elle vit des choses un petit peu comme nous, mais ce qu'elle dit c'est qu'elle ne s'accroche pas aux choses. Elle ne s'accroche pas aux émotions, elle les laisse passer, elle ne s'attache pas aux états d'âme. Et ben, je me suis endormi là-dessus, mais j'ai trouvé que c'était super joyeux parce que elle disait des choses très simples, des choses que je connais hein, par ailleurs, puisque j'ai organisé pendant 2 ou 3 ans des groupes sur la spiritualité, la non-dualité. Elle disait une chose simple, si vous voulez changer le monde, ne vous occupez pas des autres, occupez-vous de vous. Et le monde va changer. Parce que le monde est le reflet de la croyance que j'ai à l'intérieur. C'est difficile pour certains à entendre ça. Mais quand elle a parlé, elle était vraiment la démonstration de ça. Hein, parce que son fou rire là, moi je suis rentré dedans. C'était très très communicatif parce que c'était très pur. Il n'y avait aucune raison. Ouais, c'était très comme un enfant, éclat de rire, c'était très frais. Elle parlait de Jésus, elle dit c'est pas que je suis amoureuse de ce gars-là. Je suis touché par sa façon de s'exprimer, par ce qu'il dit, ça résonne. Et elle parlait de ce gars-là comme si c'était son voisin de table. Voilà, et on peut retrouver aussi cette notion d'égalité, hein, parce que dans la non-dualité, tout le monde est frère, hein, tout le monde est frère et sœur. Il n'y a pas de rôle particulier. Et donc l'ego, dans ce chemin-là d'éveil à soi-même, est amené à devenir transparent, à se dissoudre. L'ego, c'est moi-je, hein, c'est moi qui, voilà, c'est moi qui fais, la forme, la personnalité. Bon, alors peut-être que mon ressenti là de ce soir, les choses semblent être très fluides, vraiment très fluides. Peut-être ça a démarré avec cette écoute. Il était tard, j'étais fatigué, mais je ne pouvais pas éteindre l'appareil qui me montrait ces superbes images. Je ne pouvais pas. Je suis allé jusqu'au bout de l'enregistrement. Et donc c'était en direct, hein. Et on peut le voir sur Ustream. Ustream, c'est un truc de streaming où on peut voir des tas de chaînes dans le monde en direct et en différé aussi. Mais sur Ustream, il y a la radio ici et maintenant. Il faut chercher le canal qui s'appelle Time, T-I-M-E, point d'exclamation. Faut mettre le point d'exclamation. Et là, lorsque la radio est en direct, ce qui n'arrive pas tout le temps, parce que les mecs, on dirait qu'une certaine partie du temps, alors à ce moment-là, on peut voir les intervenants, on peut voir aussi les animateurs de cette radio. Et donc, il y a, si vous connaissez même la fréquence 95.2, hein, si vous écoutez dans les prochains jours, il y a des chances qu'elle soit rediffusée. Parce que comme c'était vraiment hier soir, pendant la nuit, c'était en direct, c'est souvent rediffusé. Puis après, ça arrive dans leur audio qu'ils vendent à 2 ou 3 euros, une semaine après, où ça, on peut acheter l'enregistrement, où il y a aussi une vidéo qui est diffusée gratuitement quelques jours après. Donc, en tapant ici et maintenant sur Internet, on peut voir ça. C'est vraiment, moi je peux dire, c'est de l'or liquide à boire, hein, cette interview-là de Armel. Parce qu'il y a des gens, des questions, hein, des auditeurs qui venaient, qui posait des questions comme nous on peut poser des questions. Pourquoi le monde va si mal, qu'est-ce que je peux faire pour aider mon voisin qui sourit pas, qui est triste, qui est pessimiste, qui est déprimé. Et ne répondait qu'une seule chose: regarde en toi. C'est comme Ho'oponopono, hein, cette technique de guérison hawaïenne ancienne, pour changer les autres. Change-toi toi-même, regarde qu'est-ce qu'il y a à pardonner, regarde qu'est-ce qu'il y a à aimer, regarde qu'est-ce qu'il y a à remercier en toi, et puis la personne qui a diffusé Ho'oponopono était un docteur employé dans une clinique, un asile psychiatrique avec des fous dangereux qui il fallait pas s'approcher d'eux parce qu'ils pouvaient vous attraper. Les gens, les infirmières frôlaient les murs pour se déplacer. Et ce docteur-là, tout ce qu'il a fait, c'est prendre les dossiers sans rencontrer les gens. Prendre les dossiers des gens, les lire. Et puis pour chaque dossier, il disait: je vous aime, je vous demande pardon, je vous remercie. Et c'est tout. Et il prenait le dossier suivant et il recommençait. C'est tout ce qu'il faisait. Au bout de quelques mois, les gens ont commencé à aller de mieux en mieux et ont été libérés. Et au final, l'asile psychiatrique a été fermé parce qu'il n'y avait plus de fous. Il n'y avait plus personne. Histoire véridique, hein, vous pouvez vérifier. C'est le docteur Yulen, H-E-W. Mais c'est une technique qui commence à se répandre. C'est une technique non-duelle, hein, avant tout. Parce que je reconnais ma responsabilité sur ce qui se passe dans le monde. Donc, je n'ai pas besoin de m'occuper des fous, je m'occupe de comment je...
C'est le Dieu-là. Clément, je veux dire que notre chemin c'était pareil, c'est le même. Parce que nous sommes informés toutes seules des choses qui nous intéressaient avant de rejoindre ce groupe. Et je veux dire que moi, au début, je tombais aussi sur le site, c'est un site romain, pour l'énergie, sur un article de l'énergie libre. Et là, j'ai lu un article du Cobra. Après, j'ai trouvé le comment ça s'appelle, une référence pour les groupes qui veulent comprendre, réunir dans un groupe pour changer le monde ou aider de monter la conscience. Et comme je viens de Moldavie, et maintenant je travaille, je suis ici en France, et je cherchais, c'était un site romain, et je trouvais que ici en France, à Romainville, il existe un groupe comme pour le changement, comme préparer vos changements. Et c'est comme ça, je suis là depuis un an et un peu plus. Et je vais raconter après, que après notre réunion du dernier réunion du dimanche, du 22. C'était 22 février. C'est Nera qui nous a donné, nous a fait connaissance avec, connaître une personne, comme elle s'appelle, Fabrice Palmer. Oui. Et quand je suis rentrée, non, c'était le matin, c'était 6 heures, un peu plus. J'étais réveillée avec, par notre chien et il a demandé de sortir pour le promener. Et comme nous sommes en hiver, je me suis habillée, c'était 5 ou presque 10 minutes. Et le chien, il m'a attendue et nous avons fait une promenade du matin. Après, quand je suis rentrée, c'était presque 7 heures. Et je me suis dit, non, c'est trop tôt pour se préparer d'aller à travailler. Et je cherchais le nom de Fabrice Palmer. J'ai trouvé un petit vidéo, pas un petit, c'était presque une heure. J'ai écouté cette vidéo. Qu'est-ce qu'il a dit, c'était, et pour moi c'était comme, je peux pas m'exprimer, c'était une énergie très très puissante, c'était comme quelque chose de moi, et j'ai compris tout ce qu'il a parlé. Je me sentis toute la journée merveilleuse. Et je remercie, quand je rentrais après le travail, je remercie Nera pour qu'elle a partagé avec nous comme de connaître cette personne, parce que il y a quelques années, depuis quand il est connu. Mais pour moi, c'était pas le moment. Et je lui remercie pour ça. Après, il y avait deux. C'était lundi et c'était l'anniversaire de Nera. C'était son anniversaire. Et je l'ai félicité aussi. Et. Après un jour ou deux, sur notre Skype, il y avait une personne qui habite en Moldavie. Et nous faisons partie de notre groupe qui s'occupe de santé, avec des vitamines, avec des minéraux. C'est un groupe pour les compléments. Oui, complément alimentaire. Et il y a longtemps, depuis quand elle est, nous ne sommes pas en conversation, mais elle nous a envoyé un message et a demandé le pardon. Et c'était un peu bizarre pourquoi elle a demandé le pardon, mais je me suis dit peut-être elle a conscientisé quelque chose ou. Peut-être ce sont les fêtes qui s'approchent pour le Pâques et les chrétiens, ils demandent pardon à tous les gens. Peut-être c'est ça aussi. C'était un peu... Parce que je n'ai pas besoin de demander à quelqu'un qu'il me pardonne. personnellement. Je peux demander comme être consciente que peut-être il y a quelqu'un qui j'ai fait souffrir ou quelque chose j'ai dit pas correct, et je lui pardonne et je demande s'il peut il peut me pardonner. Et si c'est le moment, et si c'est l'univers qui doit venir avec les situations, et comme, un peu comme ça. Estella qui a reçu ce message sur le Skype, elle a répondu de mon nom et de son nom. Elle a dit toujours bravo, comme tu es une personne exceptionnelle, et bon courage, et c'est ça. Et comme lendemain, c'était aussi l'anniversaire de cette personne, de cette femme. Quand nous étions en ligne sur l'internet, il est arrivé le message que voilà, demain c'est l'anniversaire de quelqu'un. C'est le Skype c'est le Google qui te donne des messages comme ça. Mais comme ici c'est une heure moyenne, à Moldavie c'est une heure en avance, et ça veut dire que chez nous c'est déjà l'anniversaire, mais chez eux c'est pas encore. Et j'ai envoyé un petit texto pour féliciter. Elle a dit c'était très 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 elle était très touchée pour ça. Elle a dit que tu as été la première personne qui m'a envoyé ce message. Et bon, j'ai passé une très, très belle semaine. Et merci. Merci à tous mes guides qui travaillent avec moi, peut-être, c'est comme ça. Et merci à ce groupe qui existe, et je me sens très bien parmi vous. Et voilà, et hier soir nous avons médité pour nettoyage sur l'Europe, qui Saint-Antoine Valli qui a proposé cette méditation de nettoyage, et la prochaine sera peut-être le 7 mars. Oui, c'est la prochaine méditation pour nettoyage aussi. Et bon. Merci.
Alors moi, je continue sur mon expérience personnelle. Depuis au moins 2 mois, je me réveille le matin avec une vibration forte dans le cœur, comme un courant électrique, mais agréable, pas du tout désagréable, comme si le cœur ou le milieu de la poitrine, je pouvais le localiser, le sentir très facilement. Et plus mon mental s'active, je commence à avoir des pensées, je commence à avoir des activités, et plus cette vibration diminue. Mais j'ai remarqué aujourd'hui que plus je médite dans la journée, et plus je recontacte cette vibration. Et donc c'est vraiment sensible ce niveau vibratoire, parce qu'aujourd'hui j'ai fait à 16 heures la méditation avec la musique la belle musique d'Anaël, là, qu'on a entendue tout à l'heure, plus 15 minutes de silence. Et après, cette méditation d'une demi-heure environ, j'ai senti que ça vibrait en moi. Et j'ai senti que faire taire le silence, le mental, ça me permettait d'écouter cette vibration. Et que c'était le mental qui faisait du bruit et qui m'empêchait de l'écouter. Alors c'est intéressant parce que je me réveille le matin, le mental est au repos. Et donc, la vibration va être au maximum. Dans la journée, je perds la connexion avec cette vibration. Je peux la localiser quand je m'arrête. J'écoute. Et là, je commence à sentir le corps qui vibre. C'est pas localisé dans le cœur, mais je peux sentir comme un courant électrique dans mes cellules, presque partout dans le corps. Comme si les cellules vibraient très très vite, mais c'est avec une écoute très fine, c'est-à-dire un arrêt sur image. Vraiment, je m'arrête et puis j'écoute une vibration. Je compare ça à les bulles de champagne. Quand il y a une coupe de champagne, il y a des bulles très très fines qui remontent. C'est comme si dans mon corps, il y avait des petites bulles très très fines qui remontaient du corps vers la conscience. Et c'est intéressant de voir que cette vibration, elle est toujours là, mais elle est atténuée par le mental qui fait lui-même son bruit de fond. Donc, quand je médite, hop, je retrouve un niveau de vibration plus fort. C'est en adéquation avec tout ce qu'on entend. Le niveau vibratoire monte avec la méditation, descend avec l'agitation et avec l'ego et avec les émotions comme la peur, toutes les émotions qu'on appelle négatives. Donc voilà, pour moi c'est une excellente nouvelle parce que c'est comme si je commençais à constater ce qui par ailleurs était tout à fait théorique. Mais je le constate en moi. C'est plus seulement du blabla. C'est plus seulement un texte à lire. C'est un truc que je vis dans ma vie. Donc ça, c'est magnifique. Surtout aujourd'hui, après la méditation, j'ai dit, ça vibre. Je dis, oui, j'ai fait silence. J'ai fait silence et donc ça apparaît plus facilement. Alors, ça m'amène à dire que j'ai l'impression que le niveau vibratoire sur Terre augmente aussi, que je suis sensible à ça et que je le ressens parce que ça fait 2-3 mois maximum que je commence à ressentir ça plus fort. Alors, comme si j'étais plongé dans une soupe qui bouillonnait de plus en plus fort et je m'en rends compte. Je me rends compte que ça bouillonne avec ma conscience. Donc, et l'expérience de ce soir, l'expérience de cette fluidité-là, l'expérience d'hier soir avec cette intervenante, la Armelle, tout ça, je mets ça dans un même bain, c'est le cas de le dire. Dans quelque chose qui se fluidifie de plus en plus. Et ça, c'est assez réjouissant, je dirais, parce que je sens quelque chose qui monte au niveau vibration. Et j'ai l'impression que ce n'est pas seulement moi qui le vis. J'ai l'impression que c'est autour de moi, que moi je le capte, mais ce n'est pas en moi réellement, c'est autour de moi. Donc ça, c'est plutôt, je sens qu'il y a une énergie de printemps dans laquelle l'événement peut parfaitement s'insérer, si cette énergie continue à monter. Parce qu'il y a, des tas, même au niveau géopolitique, il y a des tas de choses qui bougent, qui arrivent, qui se déclenchent. J'ai été amené à lire une nouvelle assez réjouissante dans la série Le Monde Change. Alors, la mairie de Paris appelle les Parisiens à repenser leur ville. Et donc, il y a un budget dans Paris qui est dédié au projet des Parisiens. Et on peut, quelqu'un qui est parisien peut donner n'importe quel projet qui lui tient à cœur. Par exemple, il y en a qui ont dit faire des colombiers, des pigeonniers dans les squares pour que les pigeons, au lieu de s'installer sur nos fenêtres, de salir avec leurs déjections et de faire du bruit toute la nuit, aient une maison, aient un lieu, et comme ça, ça va aider les pigeons et nous, ça va nous soulager. Waouh ! Donc, avant tout, ce que je retiens, c'est construisez la ville dont vous avez envie. Hein, c'est vous, en partie, mais il y a quand même beaucoup d'argent, hein. Il y a 5 ou 10% du budget de la ville, qui est grand, hein, qui est consacré à ces projets participatifs. Ça veut dire que dans notre vie maintenant, dans la vie des Parisiens, il y a une horizontalité de plus en plus grande. L'horizontalité, c'est le citoyen, c'est celui qui gouverne. Au lieu que ça vienne d'en haut, ça vient d'en bas. Et c'est ça la vraie démocratie. Si on y réfléchit plus que 2 secondes, est-ce que le citoyen doit se voir imposer des choix qui ne lui correspondent pas, comme l'austérité, comme des choses, la dette qu'on rembourse avec nos impôts, ou est-ce que tout est fait avec le citoyen au centre, hein, plutôt que celui qui subit les décisions qui viennent d'en haut. Donc, 5 semaines après le lancement de l'édition 2015 du budget participatif par la mairie de Paris, Anne Hidalgo, qui prévoit de consacrer 5% du budget de la ville à ses projets émanant des Parisiens, plus de 2000 propositions ont déjà été envoyées. Et certaines propositions sont réellement très intéressantes. Et c'est un début de penser la ville intelligemment. Parce que je ne sais pas, je suis maire, je vais faire ce que je pense, ce que je veux, mais j'interroge et je me nourris des propositions du peuple. Moi, je n'ai pas toute l'intelligence, évidemment. Je suis délégué par le peuple, pour le peuple, pour refléter les désirs du peuple. Ça, c'est un pas vers l'événement pour moi. On est à 5% de l'événement, puisqu'il y a 5% du budget de la ville qui est consacré au projet des Parisiens. Qu'est-ce qu'ils ont dit encore ? Semer, planter et récolter dans le parc des Buttes-Chaumont. Aménager la petite ceinture et refaire circuler 1 ou 2 fois par jour un train pour prolonger les promenades dans la capitale. Des choses très logiques, pleines de bon sens. Surtout qu'il y a de l'argent pour ça. C'est ça, il y a de l'argent. Cet argent est bloqué pour ça. Hein, il sera utilisé de toute manière. Imaginez un espace exclusivement réservé aux pieds nus dans le 18e arrondissement. Un espace où les gens pourront marcher pieds nus pour retrouver le contact avec la terre. Waouh ! Il faut interroger les gens. Les gens sont pleins de bon sens, sont pleins d'idées nouvelles. Parce que si on prend tous les Parisiens et qu'on leur demande tous leur avis, il y a une richesse exceptionnelle. Mais si on prend seulement le comité du maire et puis du conseil de la mairie municipale, ça va être forcément plus empreint de pouvoir et beaucoup plus limité, parce que est-ce que les conseillers municipaux sont dans la peau de la population, d'un Parisien? Ceux qui ont le pouvoir sont parfois un petit peu plus en hauteur, c'est-à-dire un peu déconnectés de la vie de tous les jours. Alors, jamais les Parisiens n'ont été aussi nombreux à imaginer leur ville autrement. Alors, 71 millions par an jusqu'à 2020, c'est ça le budget que la mairie offre aux Parisiens pour imaginer leur ville. C'est énorme, 71 millions d'euros. Alors, je ne sais pas si 5% du budget, c'est 71 millions d'euros, ou si le budget de la ville, c'est 71 millions d'euros, mais je pense que c'est 5%. Parce que 71 millions d'euros, ce n'est pas la totalité du budget, hein, je ne pense pas. Parce que ce serait ridicule. Alors, et ça existe depuis des années à l'étranger. Paris s'est inspiré de choses qui existent à l'étranger. Le premier budget participatif a été adopté à Porto Alegre en 1989 et progressivement mis en œuvre. En 1995, la moitié du budget de la ville était décidée sur cette base et plus de 200 cités fonctionnent sur ce même modèle au Brésil. Donc, on est à la traîne par rapport au reste du monde. Mais en même temps, ça fait tache d'huile, hein, ça se propage. On peut citer Toronto au Canada et plus près Amsterdam qui fonctionne comme ça. Qu'est-ce qu'ils ont demandé? Parce que c'est ça qui est intéressant à lire. Ils ont demandé des Vélib avec une clé USB et siège enfant. Eh oui? Ou assistance électrique pour le Vélib. Mise à disposition de composteurs dans les jardins publics. C'est pas pour composter le billet de train, hein?
Non.
C'est pour composter les légumes.
Exactement.
Ah, c'est évident. Un Parisien, il n'a pas de jardin. Il prend son compost, il va au parc et puis il le met dans un composteur. C'est simple comme... C'est le bon sens près de chez vous, hein, comme dirait l'autre. Voilà, les bonnes idées pour améliorer la vie en ville se bousculent. Alors, une place large est faite aux problèmes de déplacement et de pollution. Un habitant propose la création d'une zone de rencontre à la Goutte d'Or avec limitation de la circulation à 20 km/h et l'instauration de rues piétonnes. Un autre, la mise en place de pistes cyclables dans tout Paris, sauf peut-être entre Belleville et Télégraphe où la pente est très forte. Et le bus et la navette seront plus adaptés. Alors, autre projet aquatique imaginé par l'association Stratégie de développement urbain durable, créer une éco-piscine flottante sur la Seine entre le pont de Sully et le pont Louis-Philippe. Un projet qui fait rêver, mais aucun calendrier n'est annoncé. Alors, à quoi je pense tout de suite? Ils font ce qu'on fait, nous. Nous, on visualise le monde de demain et eux... Ils émettent des idées et la mairie dit oui. Hein, choisit 2000 projets parmi les projets qui sont... Dans ce surprenant patchwork, un internaute propose de recouvrir la tour Eiffel de plantes vertes. Excellent! Un autre aimerait voir les lumières s'éteindre la nuit pour pouvoir admirer les étoiles. Animer les rues avec de vastes fresques murales, remettre des kiosques à musique dans les jardins ou construire des terrains de sport pour les plus actifs. Les habitants de Paname n'ont sûrement pas encore dit leur dernier mot. Ils ont jusqu'au 15 mars pour le faire, à titre individuel ou au nom d'un collectif, à condition d'avoir au moins 7 ans. Un enfant de 7 ans peut déjà changer la ville. Alors ça aussi, c'est... C'est une preuve de conscience, hein, parce qu'on donne la parole au futur, à ceux qui la future génération. Pour ceux qui auraient des doutes ou des questions, des ateliers et des permanences sont organisés plusieurs fois par semaine jusqu'au 15 mars dans les différents arrondissements de la capitale. Restera ensuite à ouvrir ce sac à malice avant de revenir vers les Parisiens pour le vote final. Sur Internet, le vote sera fait sur Internet. Par qui? Par les Parisiens. Et budget participatif en un seul mot, .paris.fr. C'est là qu'aura lieu le vote, hein, et dans les mairies d'arrondissement en septembre 2015. Donc, voilà une bonne nouvelle, hein, qui arrive dans notre monde aujourd'hui même et qui témoigne d'une plus grande connexion entre le pouvoir et la population. C'est comme ça que les gens sont plus heureux, parce que leur idée du bonheur peut être mise à contribution par les élus. Mais il n'y a pas besoin de choses compliquées, simplement leur donner la parole et puis attribuer une partie du budget. Qu'est-ce que c'est que 5% du budget, hein? À Grenoble, comme je l'ai dit il y a quelques semaines, la municipalité a supprimé la publicité du centre-ville parce que c'est une municipalité écologiste, hein? Et donc, voilà, avoir des idées qui font avancer, c'est facile, hein? C'est facile d'émettre des idées et puis de faire un brainstorming et puis de sortir les meilleurs. Voilà. Donc des idées comme ça, il y en a plein les journaux. Hein, et donc soyons tous journalistes, c'est-à-dire explorons la presse. Lorsque nous braquons notre conscience sur les bonnes nouvelles qui font avancer la conscience, nous aidons le monde à ne pas se focaliser sur les drames du monde. Hein, et se focaliser sur les drames du monde, ça fait augmenter le sentiment de mal-être. Et se focaliser sur les bonnes nouvelles du monde, ça fait augmenter le sentiment de bien-être. La preuve, regardez ici, seulement 5 personnes, mais alors que du bonheur. Que du bonheur. On partage les choses qui nous ressemblent, tout simplement, qui nous ressemblent. Voilà, les choses participatives sont en train d'envahir la planète, réellement. Hein, qu'est-ce que j'ai vu? Il y a une chaîne qui est vraiment en haut du lot, c'est la chaîne Arte. Hein. Alors, quand j'étais pas conscient, je me disais, c'est quoi cette chaîne où il va y avoir que des bêtises comme de la musique classique, des expositions, rien à foutre. Mais vraiment, je pensais qu'Arte n'était d'aucun intérêt, hein, il y a 15-20 ans, loin dans une autre vie. Et bien aujourd'hui, tout a changé. Parce que même sur j'ai fait l'exploration, je regarde beaucoup Arte en différé. Donc je choisis ce que je regarde. Donc il y a énormément de conscience, hein, dans beaucoup de reportages. Mais j'ai découvert le site web d'Arte il n'y a pas longtemps. Il est extrêmement riche et il y a plein de tutoriels pour faire les choses par soi-même. Toutes les choses qui sont dans les émissions. Par exemple, il y avait une émission fantastique sur les fermes verticales. Alors en deux mots, les fermes verticales, c'est plutôt que d'avoir les légumes cultivés loin de la ville, alors que dans la ville, il y a 70% de la population, à terme, il y aura 70% de la population sur Terre, qui sera au centre-ville. Alors, il y a du transport, c'est pas écologique, il y a des nuisibles, il y a des maladies, on met des pesticides, on met des OGM, tout ça. Alors, ils ont pensé, il y a un architecte génial qui a pensé à mettre l'agriculture au centre de la ville, avec des étages. Il y a de la circulation de nutriments, les plantes sont cultivées avec leurs racines qui trempent dans l'eau, il n'y a aucun insecte et il n'y a aucune maladie et donc il y a zéro pesticide. C'est ça le grand plus de ces fermes. Pour l'instant, ça revient encore un peu cher, mais c'est comme la première télécouleur, elle était super chère. Hein. La première imprimante couleur, c'était hors de prix. La première photocopieuse couleur, bon, ça va. Pour l'instant, ça revient 12 euros le kilo de les légumes qui sont produits. Parce qu'il faut éclairer, il faut donner des nutriments, il faut même mettre du gaz carbonique, parce que les plantes transforment le gaz carbonique. Donc, zéro transport. Les produits sont ultra frais. Il y a même des fermes verticales qui ont une petite boutique au rez-de-chaussée où ils vendent la production du jour. Et tu manges les salades super croquantes, les tomates, voilà. Ça ne s'adapte pas à absolument tous les végétaux. Je n'imagine pas comment on pourrait faire du riz, mais peut-être. En tout cas, régler les problèmes de nourriture dans le monde et surtout rapprocher l'agriculture de la population. Donc il n'y a pas de transport pratiquement. Ça, tout d'un coup, ça a fait tilt dans ma tête. Je dis, j'ai envie d'avoir un truc d'hydroponie chez moi. J'ai envie de faire un petit test. Et je me suis branché sur le site web d'Arte. Et il y a un petit tutoriel, faites-le vous-même. Faites-le vous-même avec des cuves, des tuyaux, des machins, pour trois fois rien. Un néon, une pompe d'aquarium, moins de 50 euros, je crois. Et il y a une vidéo qui montre toutes les étapes pour le faire. Et puis après, comment faire pousser. Par exemple, avec des bouteilles en plastique, on la coupe en deux, le bas de la bouteille est rempli d'eau, on renverse le haut, le goulot trempe dans l'eau, et dans la bouteille, on met un petit truc de... Eux, ils mettent des galets de coco compressés, mais on peut mettre de la terre, on peut mettre de la sciure de bois, et par-dessus ça, on plante. Et on met de la lumière par-dessus. Et en fait, ça revient presque rien. On peut mettre ça, par exemple, si moi j'ai des étagères qui sont vides, je peux faire un truc de persil, un truc de coriandre qui pousse. Ça trempe dans l'eau, il n'y a rien à faire. Ça trempe dans l'eau, il suffit de contrôler le niveau d'eau. C'est même pas une plante... C'est même pas une plante normale en terre qu'il faut arroser. Là, on voit le niveau d'eau. Il y a presque même pas besoin de terre. C'est-à-dire, on peut mettre une éponge et puis les racines vont tremper dans l'eau. Alors, on peut mettre un petit peu de nutriments. Hein. Tu voulais dire quelque chose ?
Et les plantes ont besoin d'oxygène. Il ne faut pas que ce soit dehors.
Les plantes chez moi, elles poussent, elles vivent, il y a de l'oxygène à l'intérieur. Alors, le plus près possible d'une fenêtre. Mais si il n'y a pas de fenêtre, aujourd'hui, dans les fermes verticales, ils mettent des LED bleus et violettes, ce qui fait une lumière rosée. C'est ça que les plantes apprécient le mieux. Donc, ça consomme très peu. Moi, je peux acheter une réglette LED. Non seulement ça consomme très peu, mais ça donne la bonne fréquence de lumière aux plantes. Enfin, si je fais ça, c'est surtout pour montrer que ça marche, je dirais.
Oui, salut Mila. Il y a un mois, un peu plus, depuis quand j'ai pris quelques branches d'un petit arbre, d'un arbuste, c'est ça, et je l'ai mis dans une... vase avec un peu de l'eau pour qu'elle pousse les feuilles. Et vous savez, les feuilles n'ont pas pu pousser, mais il a poussé des racines. Et voilà, j'avais 5 branches, petites branches, et du 5, 3, elles ont des racines. Racines, oui. C'est ça, et voilà, sans penser à ça, ça arrive.
Alors, ce qui est bien chez Arte, c'est que non seulement ils diffusent des reportages excellents comme les villes du futur, avec l'agriculture qui va être ramenée dans des sortes de tours vertes qui seront magnifiques, parce qu'il y aura de la verdure à tous les étages, des vitres transparentes... mais en plus, ils introduisent ça chez les gens en disant « faites-le vous-même, regardez que ça fonctionne ». Donc je peux avoir ça chez moi pour trois fois rien avec des matériaux de récupération. Alors, et je me suis pris au jeu, donc il y a toute une rubrique qui s'appelle « faites-le vous-même » sur le site d'Arte. Il y a ça, très facile à réaliser. Et puis il y a deux jeunes femmes qui sont dans une école de design, qui habitent ensemble et qui ont fait un composteur à domicile, qui peut se faire en appartement. Elles ont acheté des lombrics par Internet. Elles ont reçu 200 grammes de lombrics dans une enveloppe. Mais moi, j'en ai dans mon jardin, hein, ceux qui veulent venir en prendre. Et avec trois caisses empilables, il n'y a rien de plus ordinaire. Elles ont fait un système où elles ont divisé leur poubelle par quatre. Parce que tout ce qui est végétal, elles le gardent dans les caisses. Les lombriques en raffolent. Et puis, y a un système où elles intervertissent les caisses. Et puis, quand on veut faire à plus grande échelle, on multiplie le nombre de caisses. Mais c'est vraiment hyper simple. Hein. Je l'avais tout à l'heure, là, mais... en plus, la vidéo est super rigolote. Si les Parisiens font ça, imaginez le nombre de tonnes d'ordures en moins qu'il y aura dans les camions-bennes. Et tout ça, ça consomme du gasoil. C'est comme la municipalité qui a offert une poule à chaque foyer dans le nord de la France pour manger le compost, pour manger le végétal. Donc ils ont divisé leur facture de poubelle par 4 ou 5. Alors, pareil là. Hein, après, il y a une sorte de liquide qui sort des caisses, qui est un hyper engrais pour toutes les plantes de la maison. Plus une sorte de terreau qui est super pour cultiver des plantes. Et c'est très compact. Les lombriques ont fait un truc. Ils sont pas payés au SMIC. Mais alors, ils bossent. Ils mettent toutes leurs compétences à dégrader les déchets. Mais deux petits exemples parmi plein d'autres. Hein. Imaginez ici que je construise en bois toute une série d'étagères avec à chaque étagère une ligne de LED pour bien et puis qu'il y ait du persil, de l'amande, de la coriandre, de la ciboulette, des haricots verts. C'est magnifique. Bon, je pourrais le faire à l'extérieur parce que moi, mais n'importe qui habite un appartement. C'est extraordinaire, parce que je produis ma propre nourriture, c'est bio, et puis c'est agréable de voir pousser sa propre production, se nourrir avec aussi. Hein, c'est comme on a les poules hein, qui donnent les œufs, etc. C'est autre chose que d'aller acheter sa boîte de poules, de œufs avec les poules élevées en batterie. Hein, c'est autre chose. Bon, donc Arte, je suis sûr, fait partie du mouvement de la résistance, est infiltré par le mouvement de la résistance, parce qu'il y a des idées pour changer la planète vraiment extraordinaires. J'ai aucune action dans Arte, hein. Mais il y a certaines chaînes dont le commerce est de baisser le taux vibratoire, et certaines autres chaînes par opposition qui font monter le taux vibratoire en parlant de ce qui nous ressemble, de ce qui est utile pour nous, de ce qui élève notre conscience. Et vraiment, Arte en fait partie. Des fois, je n'ai pas assez de temps pour voir toutes les beautés, parce qu'il y a 7 jours, hein, il y a 7 jours et après ça disparaît. Je n'ai pas assez de temps. Ça n'a rien à voir avec PFC, mais je fais une petite parenthèse. Il y a un petit film que j'ai commencé à voir ce matin. Il faut absolument le voir. C'est un film sud-coréen qui s'appelle... Alors, c'est sur Arte plus 7, hein, on peut le voir sur Internet. Qui s'appelle... un plat de nouilles aux haricots noirs, quelque chose comme ça. Mais alors, il est excellent. C'est un humour, mais décalé, mais pas du tout à la française. Hein. Excellent, excellent. C'est un mec qui se jette d'un pont pour se suicider parce qu'il est criblé de dettes. Et il se rate et les vagues le ramènent sur une île déserte, mais en pleine ville, en dessous une autoroute et tout. Il ne sait pas nager.
Il est bloqué là-dessus, son téléphone ne marche plus. Il devient Robinson Crusoe en pleine ville. Je n'ai pas tout vu, mais c'est très, très humoristique. Vraiment, faut le voir, hein, parce que c'est, voilà, on n'a pas les mêmes critères d'humour entre Français et Sud-Coréens. Je peux le voir, là, Arte plus 7. Alors, de mémoire, c'était un plat de pâtes dans... pas encore. Ça va venir. Ça n'a rien... Voilà. Des nouilles aux haricots noirs. Voilà, c'est ça. Des nouilles aux haricots noirs. La rencontre improbable de deux naufragés de la vie en plein cœur de Séoul. D'abord, prétexte à de nombreux gags et à des situations loufoques. Voilà, et puis après... Il rencontre une jeune femme qui vit complètement cloîtrée chez ses parents, qui a des sacs poubelles qui s'amoncellent sur 3 mètres dans sa chambre, qui sort plus du tout, et puis elle le repère avec ses jumelles. Et là, j'en suis pas encore arrivé, mais ça promet d'être très loufoque aussi, leur rencontre. Donc, c'est bon de rire aussi, hein, dans le fatras qu'il y a... dans nos sociétés, parfois on oublie de rire. Hein. Donc, des nouilles aux haricots noirs, c'est ça, c'est ça.
Bon, des nouilles aux haricots noirs.
Ouais. Arte plus 7, ouais. C'est un vrai film de cinéma, hein. Ça dure 110 minutes. Oui, des nouilles aux haricots noirs. Voilà. Il y a toute une rubrique du site Arte qui s'appelle Futur avec un E. Et Futur, c'est les innovations qui vont changer la vie de demain. On est en plein dans PFC, on est en plein dedans. Pourquoi ? Parce que c'est aujourd'hui que que demain se construit. Ils ont par exemple inventé, c'est un docteur, une femme médecin, qui a inventé un test de cancer qui est dépistable avec une simple prise de sang, bien avant que le cancer se déclare. C'est terminé, le cancer. Si ce truc-là se généralise, c'est terminé, parce qu'aujourd'hui, on le soigne à partir du moment où c'est trop tard. Hein, et donc, ça rate dans la plupart des cas. Donc là, elle a trouvé un marqueur spécifique, et elle sait le détecter. Tout ça, voilà, c'est des choses. La voiture électrique Tesla, c'est aussi sur Arte, une voiture électrique qui va être avec des recharges gratuites pour toute la vie de la voiture. Donc il y aura des bornes. Il y a déjà quelque chose comme 200 stations de recharge ultra rapides en France. Et si tu achètes ta voiture chez Tesla, tu ne payeras jamais la recharge. Et tu branches la voiture et il y a des chargeurs à domicile, c'est lent. Il y a des chargeurs avec plus d'intensité dans la ville, c'est un peu plus rapide. Et il y a des chargeurs ultra rapides dans les stations d'autoroute, où c'est genre 15 minutes et c'est rechargé complètement. Et la voiture... fait 500 km d'autonomie. Et c'est la seule voiture électrique au monde qui roule aussi loin avec... parce qu'ils ont doublé les... Ils ont garni tout le plancher de la voiture de batterie. Et il y a un constructeur... sur Arte, j'ai appris aussi qu'il y a un constructeur qui a imaginé une peinture photovoltaïque. Donc la voiture est peinte avec une peinture qui transforme le soleil en électricité. Et donc, la voiture est comme un panneau photovoltaïque ambulant qui roule. Ça va aller à toute vitesse.
Et d'où vient ça ?
Et il y a une étudiante qui a trouvé un moyen de recharger une pile à 70% en 2 minutes. Et tout ça, ça va être demain pour nous. Le jour où on fait ça pour les voitures, c'est fini. On n'est plus à attendre la recharge. tout le monde roule à l'électrique. La pile à hydrogène, ah oui, voilà, c'est ça que je cherchais. Tesla, alors attention, parce que Tesla met un gros pavé dans la mare, et puis il faut qu'il mérite son nom aussi, hein, Tesla. Tesla a inventé une nouvelle voiture qui fonctionne avec deux solutions différentes d'eau salée. L'électricité est produite avec de l'eau salée. Il y a de l'eau salée, première composition, je ne sais pas la composition, et une autre eau salée, c'est la combinaison des deux qui fait l'électricité. Et tu regardes la voiture, leur publicité, elle est magnifique, parce que la voiture se transforme en un vol d'oiseau. À un moment donné, elle se métamorphose. Voilà. Donc ça, pour l'instant, ce genre de locomotion qui fonctionne à l'eau n'a jamais vu le jour, a toujours été supprimé. Que Tesla puisse faire une publicité qui passe sur les écrans, qui passe sur Internet, et qui soit un vendeur de cette voiture, c'est une première mondiale, c'est une excellente nouvelle. Et c'est sur Arte, hein, que j'ai vu le clip. Moi, je suis sûr que Arte participe au mouvement de la résistance, parce que qu'est-ce qui va se passer? Que peuvent dire les pétroliers aujourd'hui devant une voiture Tesla qui roule à l'eau salée? Que peuvent dire les pétroliers? Jusqu'à présent, ils tuaient les inventeurs. Ou alors, ils leur proposaient $1 milliard, ça s'est vu, hein, pour qu'ils abandonnent leur invention. Parce que même $1 milliard, pour eux, c'est rentable, pour récupérer l'invention et la mettre dans un tiroir. Mais pourquoi? Alors, ma question, elle est autre. Pourquoi tout le monde a vu son invention supprimée? Parce qu'il y a eu des voitures à hydrogène, hein, il y en a eu des voitures à eau avec électrolyse, il y en a des centaines. Toutes ont été supprimées avec des menaces, avec des destructions, avec des... Pourquoi ça marche avec Tesla? Pourquoi la publicité, elle est visible? Et pourquoi on laisse faire ça à une société commerciale? Est-ce que derrière les coulisses, il y a un grand changement, hein? C'est ça ma question. Parce que ça ne peut pas se faire sans un accord tacite des pétroliers. Ça ne peut pas se faire parce qu'ils ont un pouvoir et un lobbying tellement puissant qu'ils pourraient faire annuler les publicités, menacer... Tesla, ce n'est pas une société énorme, hein? Ils pourraient la menacer directement. Bon, alors, c'est comme si l'aura de Tesla enveloppait tout ça et puis facilitait, c'est comme le QEG, hein, la machine à énergie libre qui a été mise en production par une équipe. Voilà, ils ont été menacés, ils ont eu la vie difficile, mais ils n'ont pas abandonné. Donc, si Tesla arrive au bout, je crois qu'on a des sérieuses chances de se réjouir, mais réellement. Et puis, ils sont très ambitieux, hein. Leur voiture est super belle. Les chargeurs, on se croit dans un film de science-fiction. C'est une sorte de borne avec un trou ovale comme ça, très design, très joli. La voiture, elle a une forme... Waouh! Je crois qu'elle doit coûter encore un petit peu cher. Mais bon, c'est un peu des prototypes, hein. Il ne faut pas s'attendre à des prix très, très bas au début. Mais dès qu'il y aura une production de masse, bah, tout devient moins cher, hein, à partir du moment où ça... Donc voilà, moi je suis enthousiaste, vraiment enthousiaste sur la partie du monde que je découvre, qui... La partie participative des citoyens qui grandit de plus en plus, même dans les élections, pour mettre à mal le système des élections tel qu'il est conçu, c'est extrêmement difficile. Il est vraiment conçu pour le bipartisme, c'est-à-dire ceux qui ont des sous, ceux qui ont des signatures. Il paraît qu'il laisse un ou deux outsiders à côté faire des petits scores. Avec l'audimat, ils arrivent même à régler le score des outsiders, c'est-à-dire des petits partis, pour que ça reste crédible. Mais d'une fois sur l'autre, c'est une fois à la gauche, une fois à droite, une fois à gauche. Et puis on n'a jamais les petits partis, ils sont pas élus au Parlement, ils sont pas. Eh bien maintenant, ça commence à changer, puisque en Grèce, c'est un petit parti qui a fait un gros score. C'est une première mondiale, hein, pratiquement. Et puis, on s'attend à ce que ça se passe aussi en Espagne. On s'attend aussi en Italie. Il y a aussi un mouvement similaire. En Allemagne, ça commence. C'est un peu une contagion. Donc, le système qui devait être imbattable, inviolable, des élections, a une brèche. Hein, et le peuple s'engouffre dans la brèche. Et pourquoi ça a marché ? Parce qu'ils en ont fait trop. Parce que l'austérité, la conscience des gens a dit, déjà, on trime toute l'année, et si en plus le salaire minimum baisse, il y a eu un seuil de non-retour. Il y a eu une ligne rouge qui a été franchie dans l'exploitation de l'homme par l'homme. Et donc, c'est ça l'erreur de la cabale. L'erreur, ça a été de sous-estimer le niveau de conscience, même si il y a beaucoup de gens qui sont des moutons en léthargie, hein, dans la population, et ça, je ne leur jette pas la pierre, mais le rythme est tel que c'est très difficile d'entrer dans la spiritualité ou dans un développement personnel, mais même ces gens qui sont maintenus dans une survie plutôt qu'une vie, et bien même ceux-là, ils ont réussi grâce à l'austérité, grâce à l'épreuve, ils ont réussi à se dresser et à dire assez. Hein. Bon, donc ça, c'est une excellente nouvelle. Hein. Après, bon, les révolutions, elles sont confisquées. Il ne faut pas s'attendre à un bouleversement à 100%, mais il y a des prémices, des frémissements de le peuple a son mot à dire. C'est ça que moi, j'entends. Parce que même Syriza, là, ça, en Grèce, ça commence. Ils voulaient plus de Troïka, mais ils ont accepté que ça s'appelle les institutions. Donc il y a juste le mot qui a changé. Ils voulaient plus de. Non, ils ont changé le vocabulaire, mais tout le reste, c'est exactement pareil en dessous. Donc il y a des gauchistes en Grèce qui disent ça le fait pas, quoi. Ça, c'est ce qui se passe, c'est pas un changement. C'est une continuation. Mais bon, combien il y a eu de scores 35% pour la gauche radicale en Grèce, déjà ça, c'est historique. Hein, je dirais, le peuple peut prendre conscience que lorsqu'il est uni, il y a beaucoup de pouvoir. Même si Syriza se plante, il y a des chances qu'il se plante. Les révolutions arabes se sont aussi ont été confisquées en partie. Mais même si ça se plante, le fait que ce soit possible, c'est déjà beaucoup. Hein, parce que ça peut être répété. Ça peut être répété, et puis ça peut. Bon, il y a peut-être besoin d'un niveau de conscience encore plus fort, hein, je dirais encore plus grand. Mais ce sont des avancées pour moi, des choses impensables il y a 5 ans. Hein. Qu'un parti de gauche radicale arrive au pouvoir dans un pays, c'était impensable il y a 5 ans. Même peut-être il y a un an, hein, je ne sais pas. Voilà, on est peut-être en train de vivre des temps historiques. Hein, et peut-être que dans un an, il se passera encore plus de choses impensables. Hein. Vu l'avancée des choses, les évolutions se produisent à un rythme logarithmique, ça veut dire exponentiel. Ça veut dire que entre 1950, on a calculé ça, entre 1950 et aujourd'hui, il y a eu autant d'inventions qu'entre l'âge de pierre et 1950. Et ça augmente. Et ça augmente comme une spirale qui va de plus en plus vite, hein, au fur et à mesure qu'elle arrive vers le centre. Et donc, plus il y a d'humains, plus il y a d'inventions, et puis il y a l'inconscient collectif qui fait qu'il y a une invention qui, plop, 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 qui est découverte par trois chercheurs qui ne se connaissent pas. Il y a l'inconscient qui communique, hein, ces inventions. Ça s'est vu dans le passé avec l'électricité. Il y a des inventeurs qui ne se connaissaient pas, qui ont découvert l'électricité en même temps, qui ont trouvé des choses similaires, parce qu'ils sont connectés à voilà, une sphère d'idées qui n'est pas dans leur cerveau. On appelle l'inconscient collectif. Donc moi je dirais, attendons-nous à ce que deux réunions PFC en réunion PFC à être surpris. Parce que déjà aujourd'hui, on peut être surpris du nombre d'avancées importantes, hein, qu'il y a malgré la morosité ambiante, malgré le journal de 20h, malgré ce qu'on voudrait nous faire croire, il y a beaucoup, beaucoup de bonnes nouvelles. La seule chose qui les différencie des mauvaises, c'est qu'elles n'ont pas de presse. Elles n'ont pas d'écho. Alors, c'est nous l'écho. Hein, c'est nous. Donc, on diffuse. Cet enregistrement audio, c'est aussi un journal des bonnes nouvelles. Hein, donc, on diffuse l'enregistrement audio pour que le niveau vibratoire augmente. Et quand il y a un niveau vibratoire qui augmente, la productivité des gens, en termes de je suis créateur dans ma vie, ben ça augmente. Ça augmente parce que c'est lié au niveau vibratoire. Je vous dis une chose, c'est pas moi qui parle en ce moment-là. Parce que je ne sais pas. Les phrases s'enchaînent tout à fait toutes seules. Je suis assez ébahi par ce que je dis moi-même. Bref. Oui, merci, cher mobile pléiadien. De diriger tes énergies dans la pièce. C'est une antenne, en fait. On est branché en direct sur le cosmos. Quelqu'un veut dire quelque chose pour terminer, ou sinon on peut s'arrêter, ou un mot d'encouragement, ou quoi que ce soit.
Ludmila, je veux remercier un autre sponsor. Voilà, pour le panier de légumes, bio. Merci beaucoup. Je pense que nous te connaissons déjà parce que tu es notre frère. Pas peut-être comme physiquement, mais c'est l'énergie qui semble en nous. Et merci beaucoup. Du courage ensuite.
Oui, donc c'est Clément. Donc voilà, suite à ces discussions, effectivement, on a parlé de beaucoup de choses qui se développent. Et je voulais mettre ça en lien avec ma présence aujourd'hui, parce que comme je vous ai expliqué tout à l'heure, moi je suis arrivé là un petit peu par hasard au fur et à mesure de mes lectures justement sur Internet, de beaucoup de choses que j'ai pu apprendre et découvrir. Et pour dire que justement, effectivement, c'est ce que j'ai pu remarquer notamment sur Facebook, sur la bulle Internet un peu partout, c'est que les gens sont plus dupes de ce système et comprennent bien qu'ils sont manipulés. On a eu des événements récents en France qui ont fait que les gens se sont posés des questions. Ils sont peut-être pas tous arrivés aux mêmes conclusions, mais en tout cas, il y a eu des questions posées. Et il y a vraiment, en tout cas, des mouvements qui se créent pour sortir un petit peu de cet ancien monde et aller vers des choses plus modernes et vers une prise de conscience, en tout cas, une avancée de la conscience au niveau de l'être humain. Enfin, c'est vraiment moi, ce que j'ai ressenti ces derniers mois au niveau de la population française, en tout cas, que j'ai pu observer. Donc voilà, c'est encore une fois, c'est un message plein de positivisme et voilà, plein d'espoir effectivement pour les mois et les années qui viennent, je pense.
Je ne pourrais pas terminer sans dire un mot de l'extraordinaire nouvelle que m'a communiquée Neira sur la grande caverne à l'intérieur de la montagne Buseji. Si je dis tout, il y en a pour au moins 2 heures, mais je vais dire en résumé, parce que c'est... Alors, pour le lire, déjà, êtreconscience.com, en un seul mot, êtreconscience.com, et un slash, Buseji, B-U-C-E-G-I, Buseji.html. Mais donc, voilà, il est dans l'enregistrement audio, donc vous pourrez réécouter ce lien. Je vais vous lire les 2 premiers paragraphes, parce que c'est assez fabuleux. Une découverte inouïe, inconcevable, inimaginable, même dans nos rêves les plus fous. Une œuvre extra-humaine, âgée de quelques 50 000 années, et témoignant de connaissances universelles, terrestres, extraterrestres, tout domaine scientifique rassemblé, au cœur des montagnes Buseji, une très grande salle, comparable à une immense bibliothèque, fut découverte en Roumanie. Cette bibliothèque, véritablement universelle, apparaît être l'œuvre d'une antédiluvienne civilisation de géants, offrant une somme inouïe de connaissances, dépassant de toutes les bibliothèques réunies de la Terre, en quelque domaine scientifique que ce soit, mais elle n'est encore entrouverte qu'à de rares, très rares privilégiés et pour des visites extrêmement courtes uniquement. Ce site souterrain n'a-t-il pas été également surnommé le corridor secret du pouvoir par les auteurs du livre qui nous le font découvrir, Radu Sinamar et Peter Moon? Voilà. Alors pour l'instant, c'est massivement investi par les services secrets et par l'armée. C'est en Roumanie. La porte de cette caverne, c'est une barrière énergétique qui réagit au niveau de conscience. Donc quelqu'un qui veut entrer en force meurt d'une crise cardiaque parce qu'il y a une énergie très forte. Quelqu'un qui est en conscience passe à travers le champ d'énergie. Et ça fait 60 000 ans que cette caverne attend que les humains aient assez de conscience pour y entrer et pour avoir accès à la plus grande bibliothèque de tout l'univers, avec des hologrammes, avec des vidéos en relief sur la vraie histoire de la Terre, sur toutes les espèces de vie dans l'univers au total, avec des possibilités de voyager dans le temps, avec une exploration du corps humain, de son propre corps humain, avec un zoom infini sur toutes les parties du corps. Voilà. C'est, moi, si j'ai un vœu à formuler, c'est de pouvoir aller là-bas. Peut-être on pourrait mettre nos intentions pour avoir accès à cette bibliothèque, parce que s'il y a de très rares privilégiés, pourquoi est-ce qu'on n'en ferait pas partie? Parce que c'est une base de connaissances illimitée, carrément illimitée, où je peux avoir accès à toute l'histoire. Le type qui a vu ça, la phrase qu'il a dit en sortant, il a dit « mais on pourrait passer une année entière sans jamais s'ennuyer une seule seconde ». Tellement la masse de données est énorme. Alors il y a des tables, ça a l'air de rien, il y a des tables avec une petite fente recouverte d'une sorte de verre qui est quadrillé. Je pose mon doigt sur un quadrillage, la fente s'illumine et il y a un hologramme en relief qui apparaît et qui représente mon corps, le mien. Et si je bouge mon doigt dans une certaine direction, ça zoome dans mon corps. Et je peux aller zoomer à l'intérieur, à l'intérieur, à l'intérieur, pour voir les os, les articulations, l'ADN, les molécules, tout en temps réel. Excellent pour repérer les maladies et les trucs comme ça.
Voilà, et puis, si j'appuie sur un autre carré, je vois le corps d'autres civilisations extraterrestres, et je vois comment il est, de quoi il est fait, comment il fonctionne, comment est son ADN. Et si j'appuie sur le carré, sur deux carrés en même temps, je vois ce que donnerait un mix de ces deux espèces, humains, extraterrestres, et à quoi ça ressemblerait, est-ce qu'il serait viable. Bon, ça fait rêver, parce que tout ressemble à de la science-fiction. Il y a un PDF de 55 pages qui est ce qu'ils ont été autorisés à publier, mais on peut dire qu'il n'y a même pas 2% qui a été publié et 98% qui est secret. Alors, si on sait ce que c'est que le pouvoir de l'intention, on pourrait se visualiser dans la grotte, nous-mêmes. Hein, on pourrait dire « nous y sommes ». Nous y sommes et parce que notre niveau de conscience est suffisant, nous pouvons matérialiser ça. Le fait que nous allons voyager en Roumanie et puis d'une manière ou d'une autre entrer dans cette grotte et puis la mettre au service de mettre ses connaissances au service de l'humanité. Parce que qu'est-ce qui a déclenché l'ouverture de ces connaissances? Le niveau de conscience de la personne qui est passée en premier. Parce qu'il y a trois soldats qui sont morts foudroyés d'un arrêt cardiaque en essayant de traverser une barrière invisible. Donc visiblement, cette caverne nous attend depuis 60 000 ans. Et puis, il y a des mécanismes très, très sophistiqués. Je m'arrêterai après ça parce que je suis intarissable. Où il y a une sorte de poste de contrôle avec un bouton rouge. Et le type qui a introduit ça a dit à l'expérimentateur, tu peux jouer avec tout, ne touche surtout pas au bouton rouge. Et le bouton rouge associé trois combinaisons de touches successives très compliquées déclenchent des cataclysmes sur Terre. Entre autres, des inondations par mouvement des plaques tectoniques. Des inondations, et y a un écran qui montre ces inondations en simulation. Et on voit la Roumanie être complètement submergée. On voit qu'il reste des petites îles qui sont le sommet des montagnes. Alors, après, j'ai réfléchi, cette caverne, elle est en plein milieu d'une montagne, elle résiste à l'explosion atomique, puisqu'elle est dans une montagne, et elle résiste aux inondations, donc elle n'est pas n'importe où, hein, puisqu'elle est dans une montagne, elle est protégée par un immense dôme énergétique qui ne laisse passer aucun être humain. Relié au Tibet, par des tunnels souterrains reliés à l'Égypte, reliés à l'Amérique du Sud, reliés à l'intra-terre. Et ces tunnels sont gardés par des soldats en permanence. Hein, et à l'autre bout des tunnels, des salles reliées aussi à l'Irak, à côté de Bagdad. Hein, et il y a des salles plus réduites, mais de même similaire à cette salle en Roumanie. Donc il y a un ensemble de salles qui on pourrait dire c'est le poste de contrôle de toute la Terre par cette ancienne race de géants, puisque tout est surdimensionné là-bas. Les humains qui arrivaient ne pouvaient pas voir ce qu'il y avait sur les tables parce qu'elles étaient à plus de 2 mètres de haut. Donc il fallait des escabeaux pour voir qu'est-ce qu'il y avait sur ces tables. Voilà, un concentré de toutes les énergies possibles, gratuites. Et puis, ça fait 60 000 ans que c'est là. Le dôme réfléchit une lumière sans aucun éclairage visible. Et depuis 60 000 ans, donc énergie libre à tous les étages, hein, garantie. Il me semble que j'avais lu, mais je n'étais pas allé à ce niveau de profondeur, comme de lire le petit livre de 55 pages qui est vraiment très enthousiasmant. Hein. Ça a l'air de la science-fiction du début à la fin. Hein. cet ouvrage-là. Même le Vatican est au courant, enfin, tout est dit là. Voilà, alors, si quelqu'un est arrivé à entrer dedans, est-ce que ça préfigure quelque chose pour l'humanité, hein, aussi? Est-ce que, au pied du Sphinx, hein, aussi, il y a une salle similaire qui a été prédite dans d'autres textes. Hein. Maintenant, je fais le rapprochement. Ouais. Une énorme bibliothèque, mais invisible, parce que les parois sont lisses. Tout est haute technologie, c'est-à-dire... tu touches avec un doigt et tu as un document qui apparaît. Et tu peux faire défiler, mais tout est en vidéo, tout est en film, tout est en images, tout est interactif. C'est de la technologie extra-humaine, hein, pour des humains extra. Bon, on s'arrête là. Voilà, c'est... On est dans une époque formidable. Hein. Je crois qu'on peut s'attendre au meilleur, mais assez rapidement, hein. Il me semble. Si autant d'informations nous arrivent comme ça, à ce rythme-là, et ça s'accélère, c'est que attendons-nous au meilleur, tout simplement. Et on l'a bien mérité, hein, n'est-ce pas? Ça fait 26 000 ans qu'on attend. La grande surprise partie de fin, le grand feu d'artifice, le bouquet final. Voilà, chers amis de PFC, ravis d'avoir été avec vous. Le petit groupe familial qui est ici, et puis les 400 futurs auditeurs de cet audio, puisque c'est à peu près le nombre qui se forme sur la durée. À très bientôt. Je peux l'arrêter. S'arrêter.